C'est un verset d'Éphésiens 5, chapitre 5, verset 1, « Que votre vie soit dirigée par l'amour. » Que votre vie soit dirigée par l'amour. Vous comprenez bien qu'on ne va pas uniquement parler des couples, parce que c'est toute notre vie qui doit être dirigée par l'amour. C'est vrai aussi pour le couple, pour la famille, pour nos relations de travail, pour nos relations avec nos parents, avec... Que votre vie soit dirigée par l'amour. Alors avant de commencer, je voulais juste faire deux notes. D'abord, s'il y a du lierre, c'est parce qu'on a eu une réunion pour les dames hier, donc vous avez le reste de déco. D'ailleurs, vous savez sans doute que le lierre, dans la culture du Moyen-Âge, c'est le symbole de la fidélité. Donc je trouve pas mal pour prêcher sur le couple. Oui, parce que le lierre s'accroche aux arbres, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est le symbole de la fidélité. Dans beaucoup d'anciennes églises, vous avez des lierres qui sont sculptés un peu partout, pour symboliser la fidélité, alors la fidélité envers Dieu en l'occurrence. Et la deuxième chose, pour ceux qui étaient devant et qui n'ont pas vu la carte de Russie, la région Altaï est tout au sud de la Russie, elle est bordée entre le Kazakhstan et la Mongolie, voyez un peu. Au sud, il y a la Chine, et sinon c'est surtout la Mongolie et le Kazakhstan, c'est une espèce de triangle tout au sud de la Sibérie. Voilà, l'exhortation de ce matin, elle est simple, elle est assez claire, que votre vie soit dirigée par l'amour. Et vous le savez, notre Seigneur est très concret et pratique, j'allais presque dire pragmatique. Il ne se contente pas de nous dire que votre vie soit dirigée par l'amour, il va ensuite essayer de détailler un peu plus concrètement, un peu plus pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire aimer. Et en fait, les chapitres 4, 5 et 6 des Éphésiens sont une espèce de description concrète. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique que notre vie soit dirigée par l'amour? Ce qu'on comprend, c'est que dans l'église d'Éphèse, il y a des gens qui se disent à eux-mêmes qu'ils aiment et qu'ils savent aimer. Et en pratique, ce n'est pas tout à fait ça. Vous connaissez parfois ce décalage entre la théorie et la pratique. Hein, on a l'impression, quand on lit ces passages, que ce sont des gens qui... Hop, tu vois, mon PowerPoint ne veut pas venir. C'est pas grave, ça viendra. Ce sont des gens qui se considèrent comme plus spirituels que les autres. Et on voit que l'apôtre Paul va être obligé de leur rappeler que des relations saines, c'est aussi de la spiritualité. Il va parler pêle-mêle de notre appel à appartenir à Dieu, de la vie avec l'esprit, de la louange, de la prière, et aussi de la patience, du fait de se supporter les uns les autres et de se pardonner. Et il va mélanger tout ça. Parce que être chrétien, c'est tout le paquet. C'est prier et veiller sur notre langue, c'est laisser le Saint-Esprit nous remplir, et c'est aussi supporter les uns, se supporter les uns et les autres. Et dans ce grand passage qui nous appelle à ce que notre vie soit dirigée par l'amour, il y a une espèce de parenthèse au milieu sur les conjoints, où on est appelé à s'aimer. Et on abordera évidemment aussi ce passage-là. Quelque part, aimer son conjoint, c'est une conséquence directe du fait qu'on est chrétien. Et le passage va un peu plus loin même, puisqu'il dit que l'amour que l'on a dans le couple est une manière que Dieu utilise pour montrer au monde quelle relation Dieu veut avec son Église. Voilà. Mais l'ensemble du passage nous donne des indications, je trouve, très précieuses sur comment vivre ensemble dans le couple, dans la famille, dans l'Église, dans la société. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Alors, on va faire une lecture un peu longue, parce que je vais lire quelques extraits des chapitres 4 et 5. Vous avez ici les références rapidement. Et puis ensuite, j'aimerais juste commenter quelques éléments, parce que malheureusement, on ne peut pas tout commenter, même si ça vaudrait la peine de commenter l'entier. Voilà, Éphésiens 4 commence ainsi... Moi, donc Paul, l'apôtre Paul, qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Vous voyez qu'il commence avec un appel très solennel, mais aussi quelque part qui nous valorise beaucoup. Nous avons un appel important, un appel dont nous devons nous montrer dignes. Et voici ce qu'il nous dit. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Un peu plus loin, au verset 28, « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez aucune prise au diable. » Et au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Un peu plus loin, au verset 17, « Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Et dans la suite, on détaille ce que le Seigneur attend de vous. Alors, je vais sauter un tout petit peu. Il nous dit « Soyez remplis de l'Esprit, louez le Seigneur de tout votre cœur. À tout moment, pour toute chose, remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de ses soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Voilà un long passage. Voyez bien que le plus important est plutôt dit au début. Humilité, douceur, patience, que toute notre vie soit dirigée par l'amour. Finalement, c'est le plus important. Ensuite, on a un peu des illustrations de ces principes-là. Voilà. Oui, oups. Il ne veut pas afficher plus gros que ça. Tu as ouvert le PDF ou tu as ouvert le PPT? Le PPT était déjà ouvert dans OpenOffice. Mais il ne veut pas. Bon, il ne veut pas. Donc, vous ferez abstraction et vous avez une bonne capacité d'écoute. C'est bien. Voilà. Ce que j'avais prévu pour ce matin, mais voilà, je pense que le culte a déjà été dense, donc je vais devoir faire des choix. J'avais prévu de parler de trois grands domaines. La question de les femmes qui doivent se soumettre à leur mari, la question de la colère et la partie la plus importante, une vie dirigée par l'amour. Et je suis très embêté parce que je ne sais pas comment je vais gérer ça. Je pense qu'on va juste s'occuper de la première partie parce que voilà. Alors, si tu peux mettre la diapo suivante, j'espère que vous arrivez à lire quelque chose. Oui ou non, on verra. Simplement, je pense que dans la lecture du passage, vous avez bien compris la structure de ce passage de la parole de Dieu. La première chose qui nous est dit, c'est que nous sommes appelés par Dieu, que Dieu nous a aimés, que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Ensuite, que parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes appelés à imiter notre Père et notre Dieu. Vous avez remarqué que ça revient plusieurs fois dans ce passage. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et puis, c'est présenté ainsi. Au début, Dieu nous incite avant tout à nous aimer, mais en précisant douceur, patience, pardon, respect et aussi soumission mutuelle, décidément. Moi, j'avais essayé tout à l'heure, ça marchait très bien, mais l'ordinateur n'est pas content. Bref, voilà. Vous voyez, le grand thème d'abord, c'est soyez humble, doux, patient, supportez-vous avec amour, efforcez-vous de conserver l'unité. Voilà. Ça, c'est le grand chapeau. C'est le plus important. Ensuite, on nous détaille ça en nous disant que votre vie soit dirigée par l'amour. Et ensuite, à l'intérieur de ça, aimer, ça veut aussi dire se soumettre les uns aux autres. Et à l'intérieur de ça, on a en particulier l'exemple des maris et des épouses, des parents et des enfants, des esclaves et des patrons. Vous voyez ? Qui tous doivent s'aimer et se soumettre. On est bien d'accord. Le grand chapeau, c'est soumettez-vous les uns aux autres et au-dessus, aimez-vous les uns les autres. Oui. On est bien d'accord avec ça. Hein ? C'est dans ce contexte-là qu'en particulier, il y a des recommandations qui sont faites aux maris et aux épouses. Aimer, respecter, prier ensemble, se soumettre l'un à l'autre, généralement, là, on est tous d'accord. Là où ce texte est un peu controversé, c'est quand on commence à parler de la soumission des femmes qui n'a pas bonne presse. Je suis d'ailleurs quand même étonné qu'on ne fasse pas plus de problèmes sur le fait de l'insistance au mari d'aimer leur épouse. Parce que finalement, c'est beaucoup plus compliqué, donc il y a une vraie discrimination à ce niveau-là, n'est-ce pas, messieurs ? Maintenant, trois petites caricatures pour dire ce que ce passage ne dit pas avant de vous proposer une interprétation. Alors j'espère que vous verrez quelque chose. C'est tiré d'un bouquin que j'aime beaucoup et qui s'appelle « Communication, clé d'un mariage réussi ». Alors, vraiment, il ne veut pas, donc voilà. Est-ce qu'elle vient ? C'est embêtant hein, quand on a prévu des images et qu'elles ne viennent pas. Bon, en voilà une. C'est le titre d'un chapitre. Le mariage est le jeu où les deux joueurs peuvent gagner en même temps. J'ai rajouté ou pas. Comprenez ce que je veux dire par là. Dans le couple, 1 plus 1, ça donne jamais 2. Ça peut faire beaucoup plus ou ça peut faire moins aussi. La deuxième diapo nous rappelle que nous sommes avant tout appelés à être un. C'est le passage qu'on a étudié dimanche passé, qui est rappelé ici dans la parole de Dieu. Comment devenir un si l'on n'est pas égaux ? Alors vous avez deux choix ici. Et puis, un troisième image, voilà, il faut que je reprenne dans le bouquin, parce que sinon vous n'arriverez pas à lire du tout. Voilà, vous avez un couple qui est devant un tableau qu'ils ont mis dans leur salon, qui reprend ce passage d'Éphésiens, « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Alors on a le couple qui est là devant eux et le mari pense « Sois soumise et obéissante, ensuite je t'aimerai comme la Bible me le demande. » Et elle, elle pense « Je me soumettrai à toi quand tu m'aimeras comme je le souhaite. » Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de commentaires, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire et que c'est une vraie tentation. Nous sommes surtout là pour dire à l'autre ce qu'il devrait faire, plutôt que finalement faire ce qui nous concerne. Voilà, tu peux remettre la diapo suivante, où j'ai remis simplement le verset où l'apôtre Paul fait un peu une synthèse, que « Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. » Ouais. Alors, c'est pas forcément simple de développer cela et je ne vais pas tout dire. J'aimerais juste faire quelques flashs pour essayer de bien comprendre ce qui nous est dit ici. La première chose à dire, c'est que quand je dois accompagner des couples qui sont en crise, ça m'arrive de temps en temps, il y a deux choses qui reviennent tout le temps. Il y a des choses qui sont spécifiques à chaque couple, mais il y a deux choses qui reviennent chaque fois. Les femmes se plaignent du manque d'attention de leur époux, du manque d'affection, de tendresse, d'écoute et de compréhension. En gros, elles reprochent à leur mari de ne pas assez les aimer. Les hommes, par contre, se plaignent du manque de respect de leur épouse. Elles ne font qu'à leur tête, semble-t-il. Elles leur parlent avec dureté, en plus parfois devant les autres. Elles les dénigrent. Elles font des achats alors qu'on avait bien dit qu'il ne fallait pas les faire. Voyez. Est-ce que les femmes aiment mieux? Évidemment, pas forcément. Est-ce que les hommes respectent mieux? Pas forcément. Ce qui est clair, c'est que les femmes sont particulièrement sensibles à l'amour, à l'attention qu'on leur porte, alors que les hommes sont plutôt sensibles au respect qu'on leur porte. Nous devons tous nous aimer et nous respecter. C'est ce que dit la parole de Dieu. Manifestement, les hommes doivent en particulier se préoccuper d'aimer leur épouse et les épouses en particulier se préoccuper de montrer du respect à leur mari. On est en train de dire que aimer, c'est d'essayer de savoir ce que l'autre a besoin, pas ce qui m'est le plus naturel pour moi. Les hommes se préoccupent du respect qu'on leur offre et ils ont donc tendance à montrer des marques de respect à leur épouse. Et ensuite, ils tombent des nues quand les femmes se plaignent de ne pas avoir assez d'attention. Les femmes se préoccupent de l'affection qu'on leur porte et donc ont tendance à montrer de l'affection à leur mari. Et ensuite, elles tombent des nues lorsque leur mari est blessé parce qu'elles leur ont dit une simple parole dénigrante. Je vois que les hommes sourient d'un moment et les femmes sourient à un autre moment. Bon. Ce qui n'est pas grave pour l'un peut être parfois profondément blessant pour l'autre. Aimer, c'est essayer de voir ce que l'autre a besoin. Quelque part, nous devons suivre l'exemple de Christ. Et c'est ça que Christ a fait. Christ, il n'a pas fait ce qui lui était naturel au ciel. Hein. Il a fait ce que nous avons besoin. C'est ça son amour. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Alors, je vous propose, alors ça sera demain, décidément, hein, de vous montrer quelques exemples que j'ai pris sur un site qui s'appelle L'Ami du Couple. Sur les différences entre hommes et femmes, il y a d'autres différences, mais je pense effectivement que la plus importante est sur cette question-là, de notre besoin de marque d'affection ou de respect. Alors, voici ce que nous dit, alors je vais vous lire assez fort parce qu'évidemment. Monsieur, quand une femme se plaint de quelque chose, elle demande simplement à être rassurée. Madame, quand un homme apporte un conseil, il souhaite être reconnu pour son aide. Monsieur, quand une femme montre de la sollicitude, elle s'attend à ce que l'homme réagisse de même envers elle. Madame, pour que l'homme arrive à faire plaisir à son épouse, il a besoin de savoir précisément ce qu'elle désire. Monsieur, une femme peut s'investir et beaucoup donner, mais elle attend à un moment donné que son partenaire soit reconnaissant et lui rende la réciproque. Ensuite, il y avait 3 exhortations pour les hommes et 2 pour les dames. Alors pour les hommes. Quand une femme dit sa peine, elle ne souhaite pas que l'on change ses émotions, mais que son mari l'écoute et la soutienne. Pour votre épouse, émotion est synonyme de problème. Vous lui témoignez votre amour en l'aidant à évacuer ses émotions. Une femme a besoin de temps pour savoir ce qu'elle désire. Une femme, surtout après un temps de séparation, même court, a besoin de rétablir la relation. Un temps de partage avec vous est indispensable, non par rapport à ce que vous avez fait, mais pour renouer la relation avec vous. Et pour les dames, l'homme a besoin de réponses claires à ses demandes. Sinon, il croit que l'on se moque de lui. Un homme, quand il se sent mal, a besoin d'être seul avec lui-même et évite la relation et les échanges émotionnels. Ça a du sens ? Une petite remarque de plus sur ce passage. J'aimerais relire juste quelques versets, versets 25, 26, 27. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Il me semble que ce passage parle surtout de Jésus et de l'Église, mais nous donne un certain exemple. Parce que, disons-le comme ça, une des difficultés qu'on a dans les familles, mais ça arrive aussi dans les relations de travail, nous avons toujours cette tendance à vouloir changer l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et lorsque nous n'y arrivons pas, nous risquons soit de devenir amers et râleurs, soit de vouloir changer de conjoint. Vous vous rappelez que je l'ai dit la dernière fois, dans le livre des Proverbes, il y a beaucoup de proverbes sur les relations, mais il y a des choses en particulier pour les hommes et les femmes. Pour les femmes, on les met surtout en garde contre le fait de faire des reproches incessants, et pour les maris, contre la tentation de changer d'épouse. Je vois, quand j'accompagne des couples, que c'est souvent cette tentation de vouloir changer l'autre qui, quelque part, provoque ces autres tentations-là. Râler ou changer. Et dans ce passage-ci, on nous dit que le Seigneur veut absolument changer son Église. Il veut que son Église devienne belle, sans tache, ni ride, sans défaut, etc. Évidemment, l'Église, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Quand il y a un verset qui dit que les femmes doivent être soumises à leur mari comme l'Église doit être soumise à Christ, autrement dit, on dit que les épouses ne doivent pas être beaucoup soumises à leur mari. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Enfin, ça, c'est le point de vue du pasteur, mais bon, voilà. Le Seigneur a beaucoup de choses à changer dans son Église. Et qu'est-ce qu'il fait? Il aime son Église. Il aime son Église. C'est ce que dit ce passage-ci. On ne nous dit pas ici qu'il appelle son Église à la repentance, Non, il aime son Église. C'est ça qu'on nous dit ici. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Le but de l'Église est bien sûr qu'elle soit changée, qu'elle soit sans reproche, comme dit ce passage-ci. La manière dont le Seigneur fait, c'est qu'il l'aime. Il ne vient pas avec une baguette magique ou une série de reproches. Il l'aime. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, ici, sinon on va tous faire une sorte d'indigestion aujourd'hui. Voilà, j'aimerais vous inviter encore à prier.